Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. L'enquête sur le massacre de Boutcha, des centaines de civils ukrainiens exécutés par les Russes. Le président Zelensky s'est rendu sur place. Il décrit un crime de guerre. Les gelées tardives n'ont pas épargné les cultures. Les agriculteurs recensent les dégâts. Reportage à suivre chez un producteur de prunes du sud-ouest. Coup de froid ponctuel, mais la planète se réchauffe. Le point de non-retour, c'est demain. Il nous reste quelques années pour garder un monde vivable. Cri d'alarme des experts du climat dans leur dernier rapport. Dans la tête de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG réfléchit à son avenir proche. Il pourrait rester parisien, la porte reste ouverte. La météo, ce sera un mardi souvent couvert, mais avec des températures qui remontent. À 22h20, on va vous dévoiler sur Europe 1 le dernier classement des enseignes préférées des Français. Vous verrez alors si vous vous y reconnaissez. Et puis avant de retrouver la libre antenne, un coup d'œil aux unes de la presse demain matin. C'est une petite ville située aux portes de la capitale de l'Ukraine. Boutcha a vécu un massacre. Des centaines de civils exécutés par l'armée russe. Certains faisaient du vélo, d'autres ont été retrouvés les mains liées dans le dos. Le président ukrainien Zelensky s'est rendu sur place cet après-midi sous très lourde escorte.
Chaque jour, lorsque nos combattants parviennent à reprendre des territoires à l'occupant, vous voyez ce que les Russes ont fait. Il s'agit véritablement de crimes de guerre. Et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. Nous savons que des milliers de personnes ont tué, torturé, déchiré des membres, violé des femmes et tué des enfants.
Volodymyr Zelensky évoque donc un génocide. Avec lui, la communauté internationale s'accorde à parler de crimes de guerre. Il faudra une enquête pour documenter les faits. L'Union européenne va prendre sa part et envoyer des enquêteurs. Joe Biden demande un procès pour crimes de guerre. À Boutcha, la collecte des preuves a déjà commencé. Marion Gauthier.
Oui, et le travail est colossal car chaque corps a son histoire, souligne Rachel Denberg de Human Rights Watch. Elle collecte et croise les témoignages, les images satellites pour établir les circonstances précises d'une mort ou de violence. L'ONG a ainsi documenté un viol et 7 exécutions sommaires, dont une à Boutcha.
Nous avons interrogé une femme qui a vu des soldats russes rassembler des gens de son quartier. Ils ont mis au milieu d'eux 5 jeunes hommes, les ont fait s'agenouiller, mettre leur t-shirt sur leur tête. Puis ils ont tué l'un d'entre eux d'une balle dans la nuque. Nous craignons qu'il y ait plus de cas comme cela.
Le meurtre, la torture, la destruction de biens peuvent être qualifiés de crimes de guerre s'ils visent des personnes protégées, des civils ou des prisonniers de guerre, par exemple. Amnesty International a aussi enquêté sur des frappes sur des hôpitaux ukrainiens. L'avocate Jeanne Sulzer parle de course à la documentation.
On enquête en temps réel alors que les crimes sont en train d'être commis. Notre crainte, c'est la destruction des preuves. On analyse, on sort des rapports, mais on garde effectivement tout pour qu'un jour, elles puissent être utilisées devant une juridiction.
Ces preuves sont mises à la disposition des autorités judiciaires nationales et internationales qui sont ainsi alertées de certaines situations et peuvent ouvrir ou enrichir des enquêtes.
Marion Gauthier, les corps de 5 hommes avec les mains liées ont été retrouvés ce soir dans une cave à Boutcha, battus avant d'être exécutés. Combien de victimes des Russes dans cette ville? Plusieurs centaines, 290 selon le maire, 410 selon la procureure générale d'Ukraine. La Russie va maintenant concentrer son offensive sur le sud et l'est de l'Ukraine, croit savoir la Maison-Blanche. Cette nouvelle phase pourrait durer des mois ou plus, selon Washington. Au sud, au moins 10 civils tués et 46 blessés ce lundi dans des bombardements à Mykolaïv. À l'est, une attaque massive se prépare, selon les observations du gouverneur de Lugansk. Enfin, à Kiev, signe des incertitudes quant aux intentions russes. Les habitants qui ont fui la capitale sont appelés à ne pas y retourner pour le moment. Washington annonce enfin que de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou seront prises cette semaine. C'est ce qu'annonce ce soir la Maison-Blanche. La France va sans attendre expulser 35 diplomates russes. Le Quai d'Orsay a confirmé cette décision en début de soirée. Tous ces diplomates ont été identifiés comme ayant des activités contraires aux intérêts de la France, Arthur Delaborde.
Oui, selon nos informations, une partie des personnes ciblées est soupçonnée d'appartenir au GRU, le service russe de renseignement militaire, dont les membres bénéficient d'une couverture diplomatique. Pour rappel, le GRU aurait notamment été impliqué dans la tentative d'assassinat de l'ex-agent double Sergueï Skripal dans le sud de l'Angleterre en 2018. Ces expulsions interviennent dans le cadre d'une démarche européenne, précise le Quai d'Orsay. Un peu plus tôt, Berlin avait d'ailleurs annoncé l'expulsion de 40 diplomates constituant, je cite, une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection chez nous, référence aux 300 000 réfugiés ukrainiens accueillis actuellement par l'Allemagne. Enfin, la Lituanie annonce de son côté l'expulsion de l'ambassadeur de Russie dans le pays.
Arthur Delaborde, l'Allemagne vient elle aussi de décider d'expulser 40 diplomates russes en poste à Berlin. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Le proverbe a repris tout son sens ce week-end. C'est simple, pour une nuit du mois d'avril, il n'avait jamais fait aussi froid depuis 1947. La semaine dernière, on a tous vu arriver cette dégringolade des températures, en particulier les agriculteurs qui s'étaient préparés quand c'était possible, bien sûr, pour limiter la casse. Après deux nuits de gel, les dégâts sont bien là, comme pour ce producteur de prunes de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Reportage Benjamin Péter.
Comme vous pouvez voir là, il ne reste pas une prune. Tout est noir de partout. Là, c'est du 100%.
C'est la deuxième année consécutive que Maurice Andral doit constater le désastre dans ses vergers de prunes. Certaines variétés ont été décimées. Pourtant, ces deux dernières nuits, il a lutté en disposant des bougies chauffantes dans les allées, en mettant le feu à des balles de paille. Mais à moins 5 degrés, il n'a rien pu faire.
Avec le système qu'on a, j'ai le filet dessus. Ce filet préserve 1 degré. Moins 4 ont passé. Malheureusement, on a eu moins 5. Ça fout les boules parce que bon, c'est toute une année de travail. Donc bon, vous voyez, on a taillé, il y a les filets tendus, il y a l'arrosage, on a désherbé, on avait mis l'engrais, tout ça pour rien. À 1 degré, on perd tout.
Paradoxalement, si les dégâts du gel sont considérables, c'est parce qu'il a fait très doux ces dernières semaines, ce qui a permis aux fruits de se développer précocement.
Tout le monde était content qu'il était en short et en t-shirt, mais nous, pour nous, ça a été une catastrophe. Les 22, 23 degrés qu'on a eu, c'est ce qui nous a fait le plus mal. On aurait eu une température normale de 12 ou 13 degrés. Ces prunes-là, encore, elles auraient été à la coiffe, comme vous voyez d'autres variétés qui ont été sauvées, et on n'aurait pas gelé.
Alors Maurice, elle est très tirée, mais la nuit prochaine s'annonce encore difficile, et c'est seulement dans quelques jours qu'il pourra chiffrer précisément l'étendue de ses pertes. À Moissac, Benjamin Péter, Europe 1.
Les arboriculteurs en première ligne, les viticulteurs aussi sont particulièrement frappés par ces gelées tardives. Jean-Marie Fabre est le président des vignerons indépendants de France.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des dégâts marqués par endroits et avec des coups très durs pour des vignerons qui sont parfois touchés de la même manière, avec la même intensité et certainement avec les mêmes dégâts qu'en 2021. Sur Chablis, en Val-de-Loire, j'ai eu des vignerons qui m'ont dit, malgré les moyens de lutte qu'on avait mis en œuvre, nous n'avons pu que limiter à moins 3 ou moins 3,5 au lieu de moins 5 ou moins 6. Mais par contre, moins 3 ou moins 3,5, ben, les bourgeons qui étaient sortis dans la journée ont noirci, ça veut dire qu'ils ont été gelés. Et donc, pour ces vignerons-là, dans ces vignobles-là, il y a parfois autant de dégâts que ce qu'ils avaient connu l'année précédente. Donc, vous comprenez bien que pour eux, la situation va être très difficile.
Jean-Marie Fabre avec Johan Tritz, situation qui s'annonçait difficile aussi pour notre réseau électrique, brutalement sollicité avec cette vague de froid soudaine. Le gestionnaire du réseau RTE a poussé un ouf de soulagement ce lundi. Son appel à la modération a été entendu ce matin par les Français, particuliers comme entreprises. On a évité en gros la coupure de courant. Les éco-gestes, les fameux éco-gestes ont permis d'économiser 800 mégawatts. Carole Ferry, qu'est-ce que ça représente ?
Alors selon RTE, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Montpellier ou d'une centrale nucléaire, pas anodin donc. Pour y arriver, les industriels les plus consommateurs ont dû arrêter leur activité pendant la période la plus sensible. C'est un procédé bien cadré pour lequel ils sont rémunérés. Et puis il y a eu les efforts des collectivités locales et des particuliers comme Christine. Elle vit à Paris avec son compagnon.
Quand nous nous sommes levés, pour éviter d'augmenter le chauffage, nous avons rajouté une paire de chaussettes et un pull-over. Nous avons également fermé hier soir la porte de la pièce commune pour conserver la chaleur d'hier soir et éviter également de remonter le chauffage ce matin. Et la dernière chose, c'est au niveau de la douche, nous n'avons pas allumé le radiant, mais par contre, on a fait en sorte de conserver la porte fermée entre les deux douches pour pouvoir garder la chaleur l'un et l'autre et éviter une fois de plus une consommation électrique.
Alors selon RTE, pas de nouvelle alerte en vue puisque les températures commencent à remonter, mais ce sont des appels qui pourraient bien sûr se renouveler si les tensions sur le gaz se poursuivent au retour des grands froids.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Un coup de froid ponctuel, donc, mais qui ne fera pas oublier le mur climatique qui se rapproche. C'est la conclusion alarmante du dernier rapport des experts mondiaux du GIEC. Ils l'écrivent noir sur blanc. Nous sommes à un tournant. Il nous reste très peu de temps pour jouer nos dernières cartes si nous voulons vivre dans un monde vivable. Ça passe par un réchauffement contenu à 1,5 degré. Louis Salé, que demandent les experts ?
Eh bien, tout d'abord, il nous reste 8 ans pour mettre en place des solutions fortes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le CO2 ne fait qu'augmenter. Il faut qu'il cesse de croître avant 2025 et que la quantité émise aujourd'hui soit réduite de moitié d'ici 2030. Nadia Maizi est l'une des autrices du rapport, professeure à l'École des Mines.
Ça renforce l'ambiance d'urgence qui ne doit pas être associée à Pierre et le loup, quoi. On n'est pas là en train de crier au loup encore plus fort que d'habitude. Ce sont vraiment des éléments de mesure et d'ailleurs, je pense que tout le monde a pu comprendre que les derniers événements, les derniers 40 degrés dans les pôles sont des questions assez prégnantes.
Mais on peut y arriver avec des actions efficaces et immédiates. Le GIEC insiste pour la première fois sur la réduction de la consommation d'énergie, mais aussi de viande et de matières premières. La chercheuse Yamina Saeb a co-rédigé la partie sur le bâtiment.
Si on a des politiques d'aménagement du territoire et des politiques urbaines qui nous poussent à plutôt construire des maisons individuelles, ce qui veut dire des accès par la voiture. Donc là, vous utilisez des sols pour la mobilité et pour le logement. Si vous faites ça, en fait, vous allez utiliser plus de matériaux et vous allez avoir besoin de plus d'énergie. Voilà à quoi fait référence le rapport du GIEC.
Dernier message, enfin, les investissements actuels sont insuffisants. Il faudrait investir 6 fois plus dans les solutions de lutte contre le changement climatique d'ici 2030.
Louise Salé. L'écart se réduit encore entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans un sondage IFOP fiducial. Le président sortant a 27,5% des intentions de vote, tandis que la candidate RN grimpe à 22%, ce qui les place désormais à un peu plus de 5 points d'écart. À la troisième place, Jean-Luc Mélenchon, qui poursuit lui son ascension à 15,5%, à distance de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour, qui baissent et font jeu égal maintenant à 10% des intentions de vote. Cette dernière semaine de campagne avant le premier tour voit enfler une polémique après la mort d'un jeune homme de confession juive à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Le drame remonte au 16 février, mais il revient au premier plan après la diffusion des images de l'agression. Jérémy Cohen est mort renversé par un tramway alors qu'il tentait visiblement d'échapper à ses agresseurs. Une enquête est ouverte pour violence volontaire en réunion et plusieurs candidats à la présidentielle se saisissent de l'affaire. Victor Chabert.
Oui, après la publication de la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour a été le premier à réagir. Il a d'abord relayé cette vidéo sur Twitter, puis l'a supprimée avant de publier 4 tweets. Le candidat dénonce un lynchage par des racailles et pointe le silence des politiciens, des médias et du gouvernement sur cette affaire. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont eux aussi réagi. Ils déplorent le même silence et s'interrogent sur le caractère antisémite de l'agression. À gauche, Yannick Jadot a demandé à ce que toute la lumière soit faite. Même mot chez Jean-Luc Mélenchon. La famille, elle, se dit choquée de la publication de la vidéo et déclare ne pas savoir qui est à l'initiative de sa diffusion. Du côté de la justice, contraint par la pression politique, le procureur de la République de Bobigny a communiqué dans l'après-midi. Il a annoncé la désignation d'un juge d'instruction qui va se charger précisément de cette affaire et d'apporter des réponses, notamment au sujet de la vidéo confirmant l'agression. Elle a été reçue le 10 mars par les enquêteurs, sans entraîner à ce moment-là de suite judiciaire.
Victor Chabert. La journée de vendredi prochain devait mettre à la même table élus corse et ministères de l'Intérieur pour discuter d'une possible autonomie de la Corse. Eh bien, cette réunion n'aura pas lieu. En tout cas, elle est reportée. Gérald Darmanin estime que les conditions du dialogue ne sont pas réunies après des violences hier pendant la manifestation de soutien à la famille d'Ivan Colonna. Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, a été visé quant à lui par des tags le traitant de collabo.
Je le regrette parce que je crois que nous avons beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à construire pour la Corse. Mais justement, les destructions, les cris de haine, les attaques rendent impossible toute construction. Le ministre de l'Intérieur avait été clair et ferme, je le pense, sur un sujet. Il a ouvert des perspectives importantes et il avait dit que tout cela ne pouvait se dérouler que dans un climat d'apaisement et de tranquillité. À chaque manifestation, on s'approche de plus en plus de ce que je crains depuis le début, c'est-à-dire le drame humain absolu, celui d'une blessure excessivement grave, voire même pire, que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre. Si d'aventure il n'y a pas une prise de conscience, notamment chez les élus, à savoir nous ne pouvons plus continuer de tolérer le fait que des manifestations se déroulent de cette manière. Je crois que si chacun ne prend pas sa part de responsabilité, nous allons, je le crois, vers une escalade de violence et vers des situations dramatiques.
Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, au micro de Frédéric Michel. Il n'y a aucun doute que Kylian Mbappé a promis un grand avenir. La question aujourd'hui, c'est plutôt où veut-il l'écrire ? Au PSG ou bien au Real ? Son contrat s'arrête à la fin de la saison et Mbappé réfléchit. L'attaquant l'a glissé hier après un joli 5-1 contre Lorient. Sa décision n'est pas encore prise, Cyril de la Morinerie. Mbappé laisse donc la porte ouverte au PSG.
Oui, beaucoup pensaient que la superstar de 23 ans avait déjà fait son choix et que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid, surtout après ses interviews dans la langue de Cervantes.
Ils sont deux des meilleurs du monde, c'est très facile de jouer avec eux.
C'était hier soir et Mbappé roule si bien les R, on le croirait déjà en Espagne. Pourtant, l'attaquant phare du PSG l'a expliqué en espagnol et aussi en français sur Europe 1. Rien n'est fait. De nouveaux éléments, dit-il, entrent en ligne de compte sans donner plus de précisions. De quoi s'agirait-il ? Eh bien, selon des sources proches du club parisien contacté par Europe 1, le PSG fait tout pour le conserver et y croit encore. Pour le convaincre, on peut imaginer un salaire XXL, l'assurance qui sera la tête de gondole du projet, de nouvelles recrues cet été comme Pogba, pourquoi pas ? Autre élément de réflexion, la Coupe du Monde qui se déroulera dans quelques mois. Rester au PSG, c'est miser sur la stabilité. Le kit de Bondy est chez lui ici et il pourrait entrer définitivement dans la légende du club. Kylian Mbappé n'a plus que 41 buts à marquer pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret, c'est le retour des nuages. Marlène, et de quelques pluies d'ailleurs sur les deux tiers nord du pays.
Oui, des pluies plutôt faibles, hein, ou quelques bruines qui vont s'étendre depuis les Hauts-de-France et l'Île-de-France vers le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-Val de Loire, puis en journée vers le Poitou-Charentes, le nord du Limousin et de l'Auvergne. En allant vers le nord-ouest, là, le temps va rester sec, bon, bien nuageux quand même, quelques éclaircies peuvent percer en bordure de Manche, et puis au sud d'une ligne reliant Bordeaux à Mâcon et Genève, grand soleil. On notera simplement des nuages qui pourront arriver en cours d'après-midi du Bordelais à la région lyonnaise en passant par la région de Clermont-Ferrand. Des records de froid, vous le savez Alexandre, ont été battus la nuit dernière dans la Marne ou alors du côté de Rodez, Châteauroux, Cognac, Bourges, Vannes ou encore Dax. Demain, moins de gelée. Alors il faudra s'attendre quand même à des valeurs négatives, notamment dans les vallées. Et puis attention quand même aussi aux pluies verglaçantes possibles dans certaines vallées vosgiennes l'après-midi. On va retrouver des valeurs proches des normes, des maximales qui iront de 7 à 13 du nord-est au massif central, 12 à 16 ailleurs et jusqu'à 14 à 18 sur le pourtour méditerranéen et en Corse.
Alors, on s'avance un tout petit peu. Le menu pour le reste de la semaine, Marlène.
Alors, la semaine sera marquée par des températures en hausse, pas mal de nuages, le retour de la pluie, alors plus de pluie. Hein, des pluies faibles, ça c'est jusqu'à mercredi. Elles deviennent abondantes pour les journées de jeudi et vendredi sur une bonne moitié nord. C'est quand même une bonne nouvelle pour la nature et les nappes phréatiques. Donc, arrosage de printemps assez sympa, hein, sauf sur le tiers sud, on va rester sous le soleil. Samedi mitigé, journée dimanche très sympa, très ensoleillée et la douceur qui devrait revenir alors la semaine prochaine, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, avec par exemple pour lundi une moyenne de 20 degrés au nord et 22 au sud.
On sera patient. Merci Marlène Duret. Nouveau point météo avec vous à minuit. On marque une courte pause à suivre Top à Wall Street et le classement 2022 des enseignes préférées des Français. C'est dans un instant donc avec notre invité éco Frédéric Fessard.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamour. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Didier, Wall Street débute la semaine en hausse dans le sillage de l'envolée du petit oiseau Twitter.
Oui, ce sont les valeurs de technologie qui montent effectivement dans le sillage de Twitter. Le Dow Jones progresse de 0,3%, 34 922 points. Le Nasdaq plus 1,9%, donc les valeurs de technologie en forme, 14 532 points. Twitter flambe littéralement de 27% à $50. Elon Musk, le patron de Tesla, a pris 9,2% du capital du réseau social, de quoi faire s'enflammer tout le secteur. Tesla, justement, prend 5,6%, $1,145. Au premier trimestre, le groupe automobile a produit 305 000 véhicules. Ailleurs, on a Apple qui gagne 2,3%, on a Microsoft qui remonte d'1,8%, Amazon plus 3%. Le pétrole cote 103$ ce soir, il se stabilise après sa forte baisse des dernières séances. L'euro repasse juste sous les indices 1,0975 face au dollar.
La bourse de Paris, elle a progressé de 0,7% dans un marché calme.
Oui, c'était très calme, plus 0,7% quand même à 6731 points sur le CAC 40. Le secteur du luxe est remonté. Avec Hermès, plus 2,5%, LVMH, plus 2%, Kering, plus 1,8%, Interparfums aussi a pris 5%, quelques valeurs industrielles se reprennent, Valeo, plus 3,5%, Thales, plus 3%, Alstom, plus 2% à 21,55€, mais il manque quand même pas mal de volume, donc à voir pour la suite.
Exception du jour, le secteur pétrolier qui recule encore ce soir.
C'est logique, oui, après cette baisse hein, de 11% quand même en 5 séances du pétrole, le baril a quand même nettement reculé vers les 100$. Donc ça donne CGG en baisse de 5%, Vallourec moins 4%, donc des valeurs parapétrolières. Total Energy moins 0,2%, Morel et Prom moins 0,2% aussi à 4,28€. Ailleurs, les autres places financières sont assez fermes dans le calme. Encore une fois, le DAX plus 0,5% à Francfort, Bruxelles plus 0,6%, Madrid plus 0,3%. Le CAC 40 donc en hausse de 0,7%, 6731 points.
Merci Didier Hamon. Et le moment est venu sur Europe 1 de vous dévoiler le classement 2022 des enseignes préférées des Français. Notre invité éco, Frédéric Fessard, bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
Vous êtes associé au cabinet de conseil en géostratégie EY Parthenon et vous publiez donc les résultats de votre étude annuelle hein, sur les enseignes préférées des Français. On va tout de suite lever le voile sur le top 3. Quel est-il le top 3 des marques, des chaînes, hein, des enseignes préférées des Français cette année?
Alors les trois enseignes préférées des Français cette année sont Leroy Merlin, Decathlon et Action.
Alors on va revenir en détail sur ce top 3. Il y a quand même quelque chose qui nous fait tiquer tout de suite, Frédéric Fessard. Leroy Merlin numéro 1, Decathlon numéro 2. Ce sont deux marques qui ont fait, il faut le rappeler, hein, le choix de maintenir leurs activités en Russie. Decathlon ayant finalement jeté l'éponge. On sait qu'il y a eu des appels au boycott de ces enseignes. C'est donc important de préciser dans ce contexte que ce classement a été réalisé avant l'invasion russe en Ukraine. Hein.
Tout à fait. On a sondé 9500 adultes français en janvier 2022 sur à peu près 160 enseignes dans 17 catégories, 17 secteurs. Donc c'était fait avant les épisodes d'Ukraine et Russie.
C'est une étude qui a été réalisée sur un large panel de consommateurs ?
Tout à fait, 9500 adultes français, voilà, échantillon assez robuste.
Donc assez robuste. Et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur Action. Leroy Merlin, Decathlon, qui sont des enseignes à la notoriété extrêmement bien établie. Action, c'est un petit peu le petit nouveau, en tout cas
oui,
dans le top 3.
Fait. Dans le top 3, on a deux habitués, hein, vous l'avez dit, Leroy Merlin, Decathlon, ils sont souvent dans le podium. Et Action est un nouvel arrivant, en fait, on le voit monter année après année, parce qu'il gagne en taux de pénétration, le taux de Français qui sont clients de cette enseigne, et aussi en taux de fanatisation, le taux de clients qui sont fans de cette enseigne.
Fanatisation.
Exactement. Pénétration et fanatisation. Bon. Voilà.
D'accord. Action, c'est un hard discounter hein, qui vient des Pays-Bas.
Tout à fait.
Qui a une implantation très très récente en France. Hein.
Assez récent. Ils sont arrivés à peu près en 2015 et ils ouvrent un nombre de magasins assez important tous les ans, 80 l'an dernier. Ils ont maintenant près de 600 magasins. Et donc, voilà, il y a déjà beaucoup de Français qui sont clients de l'enseigne. Et qui s'y rendent assez régulièrement pour se faire plaisir à petit prix.
Alors justement, qu'est-ce qui fait le succès? Qu'est-ce qui fait, parce que j'ai vu, on a un petit peu l'historique de votre étude annuelle. Action est absente, je crois, cette enseigne en 2019 de votre top 10. Arrive d'un seul coup, surgit l'année d'après et se retrouve bombardée numéro 3 cette année. Qu'est-ce qui explique un tel succès en fait?
Deux facteurs. Le premier, c'est qu'Action est de plus en plus présent près des foyers, en fait, hein, avec ce fameux nombre d'ouvertures. Hein, c'est toujours plus facile de trouver un Action près de chez soi. La plupart des Français ont un Action à moins de 20 minutes, comme ils ont un Jiffy à moins de 20 minutes. Hein, mais il y a une vraie forte empreinte sur le territoire français de Action. Et dans le même temps, ils ont une proposition de valeur auprès des Français qui est extrêmement sexy, extrêmement intéressante, avec une offre finalement assez réduite, 6000 produits, mais 150 nouveautés toutes les semaines, et une grosse part de l'offre à moins de 5 euros.
Ah, des prix cassés. Hein.
Des prix cassés, des prix accessibles. On peut se faire plaisir à petit prix. On n'est pas coupable. On a le sentiment de faire une bonne affaire sur les produits de grande conso. Et on se fait plaisir sur des loisirs créatifs, des produits de déco, pas chers.
Quelles enseignes on voit en progresser, sinon, dans ce top 10
Oui, alors, après 2 ans de pandémie, évidemment, le gros enseignement, c'est la percée du web. Les Français se sont vraiment tournés sur Internet pour préparer leurs achats et pour finaliser leurs achats. Donc, le web, on l'a vu hein, avec Leroy Merlin et Decathlon, ça faisait 3-4% de leurs ventes en 2018-2019. Et là, c'est entre pas loin de 15%, 20% même des ventes pour Decathlon. Donc, le web a explosé. Et donc, on voit les grandes enseignes qui ont fait un gros rattrapage sur le web en ouvrant du click and collect, en lançant des marketplaces, en rachetant des acteurs et puis en mettant les bouchées triples avec beaucoup plus d'équipes, de technologies. Mais au-delà de ces grandes enseignes, on voit aussi des pure players, spécialistes, qui arrivent, qui explosent.
C'est-à-dire, traduction, qui ne sont présents que sur Internet.
Exactement.
Hein.
Des startups. On va parler cette année de Aromazone, qui explose en beauté, qui fait déjà 3-4% de fans sur le secteur beauté.
Aromazone. Rien à voir avec Amazon.
Bon. L'aromathérapie, initialement, mais maintenant, c'est de la beauté à faire soi-même à domicile. On se fait livrer. Ils ont quelques magasins, mais c'est vrai que c'est des produits naturels, parfois à composer soi-même pour faire des cosmétiques maison, à des prix très accessibles.
Bon, sur les perdants, du coup, qui est-ce qu'on voit reculer à l'inverse? Vous parliez de la crise sanitaire qui a eu donc un effet positif pour les achats, en particulier sur Internet. Est-ce qu'on voit d'autres se rapprocher de la sortie du classement à l'inverse?
Alors, il y a des acteurs qui perdent un petit peu en taux de fans, évidemment. Hein, donc, c'est les concurrents de ces acteurs-là. Il y a un secteur qui souffre en particulier, c'est le secteur de la mode. En France, et on compare cette étude, puisqu'on fait cette étude dans une dizaine de pays, on voit bien qu'en France, le secteur de la mode est celui qui a les plus faibles taux de satisfaction auprès des Français. Les Français sont un peu déçus. Il y a un désamour qui s'installe en France auprès des enseignes de mode. Et pourtant, certaines font vraiment des efforts pour réenchanter les magasins, pour remettre du green dans leur supply chain, dans leurs assortiments, dans leur chaîne logistique. Mmh. Mais on voit bien, à la fin, c'est le secteur qui est le plus mal noté en taux de satisfaction, juste après l'alimentaire.
Sans exception, parce qu'il faut quand même se vêtir.
Il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Et à nouveau, on va retrouver des pure players. On va retrouver Vinted et Zalando.
D'accord. Qui
Vinted,
sont effectivement des opérateurs
avec l'économie
Internet.
Circulaire, exactement. Zalando, qui permet d'avoir une expérience assez, assez fluide également.
C'est quoi les principaux critères qui influencent les consommateurs? Est-ce que c'est forcément toujours, on parlait d'actions et de ces prix très bas, est-ce que c'est forcément le rapport qualité-prix ou est-ce qu'il y a d'autres...
Tout à fait. C'est pas le rapport qualité-prix seul qui prime. Les deux principaux critères, c'est la confiance et la qualité de l'offre. Si en plus on a un très bon rapport qualité de prix, alors c'est parfait, mais ce n'est pas la qualité de prix avant tout. Donc c'est vraiment la confiance et la qualité de l'offre. Et ça, quand on creuse, on se rend compte que c'est les enseignes qui ont beaucoup d'offres à marque propre. Par exemple, Leroy Merlin avec ses marques, ou Sephora avec sa marque propre, ou Decathlon évidemment avec toutes ses marques propres. C'est des marques enseignes comme Ikea, comme Picard. Et puis c'est des marques qui étaient initialement distribués dans des magasins, qui se retrouvent maintenant distribués dans leurs propres magasins, comme Apple, comme Nike, comme Adidas, Swarovski. Et toutes ces marques-là inspirent beaucoup de confiance et une très bonne note dans la qualité de l'offre.
Donc la confiance, c'est peut-être le service client également, le service après-vente.
Ça joue également. À l'inverse, on voit des critères qui sont un peu moins bien notés, mais qui gagnent en puissance tous les ans. Le rapport qualité-prix, on l'a dit, monte en puissance. C'est l'un des critères qui monte le plus depuis 3 ans. Et il y a fort à parier qu'avec l'inflation qui arrive, il va y avoir une importance croissante de ce critère dans les mois qui arrivent. Et puis, l'expérience digitale qui, elle, pèse de plus en plus lourd. On a regardé également l'image de développement durable. Est-ce que ça pèse de plus en plus? Ça monte en puissance, mais pas encore assez pour changer les préférences d'enseigne pour les Français.
Pourquoi on trouve Amazon 2 fois dans votre top 10?
Alors, Amazon, on le teste dans 7 des 17 catégories. Et effectivement, Amazon est numéro 1 en taux de fans sur deux de ses catégories. On le teste dans toutes les catégories où il concourt, où il a une force assez importante. Et Amazon, bah voilà, Amazon, tous les ans, se retrouve plutôt bien classé, notamment en culture, en produits multimédia et électroménagers, parce que voilà, l'offre est là, le prix est là, et le service client qui est l'un des fers de lance d'Amazon est toujours bien assuré.
Un petit site internet, Frédéric Fessard, pour retrouver votre classement des
enseignes
préférées.
Vous pouvez trouver, vous tapez enseigne préférée, EY, donc EY Partenon, le cabinet de conseil en stratégie qui fait l'étude tous les ans.
Donc vous êtes l'un des associés. Merci
Exactement.
Beaucoup Frédéric Fessard.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, partenaire bancaire des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Très vite, un coup d'œil aux unes de la presse demain matin. Les crimes de guerre. Poutine au banc des accusés. C'est la une du Figaro. Les images de civils massacrés dans les banlieues de Kiev, libérés de l'envahisseur russe, suscitent l'indignation des Occidentaux. C'est le temps des questions, titre La Croix. Alors que les fosses communes découvertes dans des villages ukrainiens d'où l'armée russe s'est retirée relèvent sans doute en effet de crimes de guerre. L'appel à de nouvelles sanctions, c'est la une des Échos. Les atrocités perpétrées en Ukraine poussent l'Europe maintenant à repenser sa dépendance au charbon et au pétrole russe. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de retrouver la Libre Antenne avec Olivier Delacroix.
Bonsoir Olivier. Mon cher Alexandre.
Le week-end a été bon ?
Le week-end a été studieux.
Studieux ?
Oui.
Revigorant ?
Pas vraiment.
Pas forcément.
Non.
Ouais.
Il a été travailleur.
Travailleur.
Oui.
Bon.
Worker.
Worker.
Non, mais voilà.
Bon, le repos attendra alors.
Oui, le repos attendra, mais vous savez, il faut garder le rythme. Hein.
Ben vous êtes une force de la nature, Olivier.
Oui, voilà, on va dire ça. Nous allons dire ça.
Bon,
vous, ça va ?
Ça va très bien.
Triste, cette actualité. Hein.
Oui, toujours. Toujours.
C'est pour ça, on va essayer de penser à autre chose, hein, même si nous avons aussi, nous, nos petits tracas dans nos vies quotidiennes. Et nous allons en parler pendant 2h30. Et on vous retrouve tout à l'heure à 23h.
Avec plaisir, Olivier.
À tout à l'heure, Alexandre.
À tout à l'heure.